Lima et du Clunisois. Il s'agit de la 34e émission dans la série Entre Cime et Racine, réalisée par Radio Danzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Cela fait un an depuis notre dernière émission dans cette série et nous nous trouvons de nouveau à une assemblée générale du RAF, donc du réseau pour les alternatives forestières. Cette fois-ci, nous nous sommes réunis du 11 au 13 juillet au Battement d'Aile, un lieu d'accueil collectif à Corny, en Corrèze, où se trouve d'ailleurs le siège du RAF. Comme chaque année, l'AG est l'occasion de se pencher sur la gouvernance du RAF et aussi sur les domaines d'activité prioritaires. Il s'agit entre autres du développement de filières forêt-bois courte et de la mise en place de ce qu'au RAF on appelle les branches locales, c'est-à-dire des groupes locaux. Autre activité essentielle, les nombreux programmes de formation pratique. Il n'est pas possible dans une heure d'émission de refléter la richesse des échanges lors d'une telle rencontre. Cette fois-ci, nous avons choisi de donner la parole à trois membres du réseau qui habitent dans le Clunisois en Bourgogne. Et elles ont mis en place des activités dans tous ces domaines. Un groupement forestier citoyen et écologique, une filière locale, des formations, une branche locale et une entreprise forestière qui pratique la sylviculture douce. Dans la deuxième partie de cette émission, nous écouterons Jacques Blot, biogéographe, invité à l'AG pour donner une conférence sur les forêts face au changement climatique. Comment renforcer leur résilience? Partons d'abord dans le Clunisois.
Amélie, donc habitante du Clunisois, formée au menage des chevaux et donc débardeuse à cheval localement, et donc investie dans l'association Plein d'essence, une asso de filière forêt-bois en construction dans le Clunisois.
Et bah, du coup, moi, c'est François Bonnevial. Je suis membre du RAF depuis plus de 10 ans. J'ai été au CA. J'ai créé la SCOP d'Arbre à Z avec l'idée de gérer les forêts en sylviculture douce et de faire le plus de transformations possibles localement et d'usage local du bois avec des bois variés, la valorisation au mieux des qualités de chaque bois. Je suis aussi actif à Plein d'essence et du coup Plein d'essence pour moi c'est un peu une continuation de tout le travail qu'on a essayé de faire émerger avec D'Arbre à Z.
Et un peu côté formation au RAF.
Voilà, et bah du coup dans le RAF je fais aussi de la formation puisque j'ai commencé avec les formations sylviculture douce, j'ai occupé et j'occupe encore le rôle formation pour coordonner un peu toutes les formations. Je pratique également le débardage avec les chevaux, donc voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le débardage à cheval, et avec je me rends compte de plus en plus que c'est indissociable de la sylviculture douce, et je tiens vraiment à ce terme de sylviculture douce parce que pour moi il y a autant l'aspect technique sylvicole que la manière et les moyens qu'on se donne pour rentrer dans la forêt. Et donc dans le mot sylviculture douce, on a aussi l'aspect de douceur de ses moyens. Et là, dernièrement, sur les formations du RAF, on a développé les formations, enfin, c'est en train de se développer, les formations sans assistance de moteur à énergie fossile. Et voilà, ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit être creusé et qui est vraiment indispensable pour gérer une forêt dans un contexte beaucoup plus large que juste la parcelle forestière.
Et Pierre ?
Et donc moi, c'est Pierre Grondona. Donc je suis nouvellement au CA de Plein d'essence, un peu sous la forme d'un couteau suisse. J'ai une formation d'architecte que je n'utilise plus depuis 5 ans. Je suis actuellement potier reconverti en débardeur à cheval également. Et donc, je m'investis nouvellement donc, dans Plein d'essence pour gérer, entre autres, ma relation avec la forêt que j'ai nouvellement aussi acquise à titre perso et comprendre un peu mieux les dynamiques qui sont en jeu dans la filière bois dans son sens large, c'est-à-dire de la graine à la poutre.
Alors, on va évoquer plein d'essences, j'espère, comprendre qu'est-ce que c'est. Il y a l'arbre à zède, il y a une branche locale. Donc, c'est un peu l'occasion de rappeler qu'est-ce que c'est les branches locales, quel sens ça a au sein du réseau pour les alternatives forestières. Et si je ne me trompe pas, il faut quand même peut-être mentionner, il y a aussi un groupement forestier, la forêt hospitalière, c'est ça ?
Ouais. Et il y a encore aussi, du coup, avec plein d'essences, une autre forêt qui a été rachetée par la communauté de communes qui est très sensible à... Voilà l'idée qu'on développe de la forêt et sur lequel il va y avoir une co-gestion avec l'ONF et plein d'essence. Et cette forêt, en fait, c'est une forêt qui appartenait à l'hôpital de Cluny. Du coup, ça crée un petit peu de confusion parce que du coup, il y a la forêt hospitalière qui est le groupement forestier et la forêt de l'hôpital qui est la forêt de la Comcom, mais où plein d'essence prend une part importante dans les choix de gestion et...
Il y a un acteur qu'on n'a pas mentionné parce que tu parles de la dimension branche locale. L'un des acteurs qu'on oublie actuellement, c'est la menuiserie partagée des Gueules de Bois qui s'inscrit sur la ferme Terre de Liens de Saint-Laurent, qui est un atelier de machines, outils et bois.
Oui, je veux dire, peut-être il faudrait même parler un peu plus de cette ferme parce que c'est une des fermes de... Terre de Liens avec le plus de forêts en France, enfin c'est quand même quelques dizaines, 40, 50, je sais pas, hectares. Hein? Ouais.
Presque 50 hectares. Et du coup c'est une forêt où historiquement d'arbres à zède, depuis que d'arbres à zède existent, on travaille dans cette forêt. Et du coup là il y a un projet qui est à l'étude pour le bail de Forêt en Vie, pour conclure un bail sur cette forêt avec plein d'essence du coup.
Forêt en Vie, que je rappelle, c'est le fonds de dotation qui a été créé par le réseau pour les alternatives forestières pour acquérir des forêts et de mettre à disposition de collectifs, etc. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, mais et qu'est-ce qui est venu au début, mais enfin, peut-être c'est bien de commencer par plein d'essence. Ou alors le groupement forestier.
Et ben, du coup, le groupement forestier il a démarré avec une forêt qui était à vendre juste à côté du site où on exerce notre activité avec d'arbres à zède. Où on avait aussi un parcours aventure en forêt qu'on a malheureusement dû fermer cette année pour des problèmes de dépérissement des arbres liés au réchauffement climatique principalement. Et donc cette forêt, ça faisait un moment qu'on était à la veillée, quoi, et donc elle est passée en vente. Et de par toutes les réflexions qu'on a pu mener au RAF, c'est une forêt que voilà, j'aurais pu acheter avec ma compagne à titre personnel. Et entre-temps, j'avais pris conscience de un petit peu de l'incompatibilité de la propriété privée et de la gestion durable des forêts et dans un objectif de bien commun. Et donc on a entamé des réflexions, on a essayé d'associer les gens qui s'intéressaient aux thématiques des forêts pour créer un groupement forestier. Et donc la base, ça a été la création de ce groupement forestier.
Il s'agit de quel genre de forêt et combien d'hectares ?
Alors là, c'était une relativement petite parcelle qui fait un peu moins de 5 hectares. C'est une forêt principalement de chênes qui était un taillis un peu à l'abandon. Donc c'est un taillis vieillissant. Je pense que ça devait faire 70 ou 80 ans qu'il n'y a pas eu de coupe dedans. Mais par contre, c'est quelque chose finalement un peuplement assez régulier avec des arbres un peu tous pareils. C'est assez typique des forêts chez nous où en fait on est un peu à la transition d'une forêt de production de matière qui était le taillis, qui faisait du bois de chauffage, à la possibilité soit de remettre les compteurs à zéro par la coupe rase et repartir sur du bois de mauvaise qualité pour pas mal d'années, soit essayer de travailler avec l'existant et d'évoluer vers une futaie jardinée, irrégulière, avec plus d'essence. Quoi.
J'imagine que vous avez fait votre choix.
Le groupement a été justement créé pour ça et du coup pour évoluer vers une sylviculture mélangée à couvert continu.
Ça a réuni combien de gens ?
Il y a eu beaucoup d'enthousiasme et donc ça a réuni beaucoup de gens. On est à plus de 80 aujourd'hui, avec une problématique du coup aujourd'hui qui est de trouver d'autres forêts, puisque ça a suscité tellement d'enthousiasme qu'on a réussi à lever plus de capital que... nécessaire, donc on a les moyens d'investir aujourd'hui dans des forêts, mais finalement on se rend compte que l'accès aux ventes de forêts est pas si simple que ça, et un peu occulte, un peu opaque, et c'est pas du tout simple de de trouver des forêts à acheter.
Ouais, c'est un problème majeur auquel est confronté Forêt-en-Vie, entre autres, mais tout le monde qui veut vraiment l'opacité dans ce domaine, quoi. Donc ça a créé une espèce de dynamique de personnes intéressées par la forêt. Donc ça, il y a d'une part l'idée de créer un bronche local, mais aussi cette histoire de plein d'essence. Est-ce que c'est un peu l'origine, un important élément dans la décision d'aller vers la création de plein d'essence?
Oui, bah, je pense que c'est des dynamiques effectivement qui ont approché les gens de la forêt. Et une fois qu'on a la forêt, on se dit bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette forêt? Il y a un groupe qui s'est créé qui s'appelle Quelle forêt pour quel usage, et donc très vite on se dit ben oui, il va falloir créer une filière, parce que c'est bien beau d'avoir une gestion vertueuse, mais si c'est pour vendre le bois sur des circuits qui ne le sont pas, c'est pas totalement satisfaisant. Et en parallèle, on avait du coup l'entreprise d'Arbre à Zette qui avait déjà entrepris ce travail, mais c'est compliqué d'associer au sein d'une entreprise à caractère commercial, qui est déclarée Capignon-sur-Rue, des activités plus bénévoles, des activités plus d'auto-formation, des activités. Et donc il y a d'autres dynamiques qui se sont créées. Une première dynamique qui était sur une approche culturelle et multifonctionnelle qui s'appelait Nous irons aux bois, où il y a eu plusieurs rendez-vous en forêt, mais bon, au final, ça s'est un peu étiolé, et les gens les plus motivés de cette dynamique-là sont lancés dans la création de plein d'essence pour faire un lieu où on expérimente la pluriactivité, où on expérimente le travail différent en forêt, sans forcément le cadre assez strict et rigoureux de l'entreprise qu'on avait avec d'Arbre à Zette. Donc ça a permis de prolonger les dynamiques initiées par d'Arbre à Zette sur un schéma beaucoup plus large et des statuts beaucoup plus variés.
Alors, Amélie, par exemple, comment tu es arrivée là-dedans? Je veux dire, cette histoire de plein d'essence, tu es là depuis l'origine?
Moi, je suis arrivée dans...
Je vais dire que tu me connais depuis la maternelle.
Je connais François depuis la maternelle. Non, je suis arrivée dans plein d'essence par ma formation de meneuse à cheval et mon ancrage dans le territoire du Mâconnais clunisois au départ, et mes connaissances de François, mes connaissances personnelles du coup, par François, rencontrer tout le réseau et par donc d'Arbre à Zette, rencontrer le réseau des gens que ça pouvait intéresser, le fait que je sache mener un cheval et que j'ai un cheval qui travaille. Et donc je suis arrivée exactement à l'AG constitutif de plein d'essence dans le réseau.
C'était quand ?
Octobre 2022. Après, c'était l'AG constitutive, c'est pas du tout. Il y a une date de début pour l'association en tant que telle, mais en fait, ça ne fait que mettre un statut officiel sur des dynamiques qui sont déjà existantes depuis des années, voire des dizaines d'années.
Et Pierre ?
Alors, moi, c'est un peu la même histoire qu'Amélie, puisqu'Amélie est ma compagne. À ceci près que moi, à la base, je suis rentré dans plein d'essence pour satisfaire mon besoin de trouver du bois local et bien cueilli, bien abattu, et si possible pas à l'autre bout de la France, pour satisfaire le projet de restauration de notre maison. Et en fait, très vite, ça s'est transformé en aller débarder en forêt, comprendre en fait les différents métiers de la filière bois et me rapprocher en ça de la forêt en général, quoi. Et faire la cuisine sur les chantiers,
c'est
très
important. Dans les chantiers.
Donc finalement, en dehors de trouver du bois pour la construction de ta maison, enfin, qu'est-ce que ça représente pour vous l'idée de créer une filière locale? Comment vous avez abordé cette question-là?
Ben, l'idée, elle est un peu triviale, hein, de trouver du bois, mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que pour le commun des mortels, avoir accès à un matériau de qualité à des prix qui sont raisonnables, c'est en fait infaisable. C'est pas possible, en fait. Et c'est pas que ce matériau n'existe pas, c'est pas que l'alternative n'existe pas, c'est que en fait pour la débusquer, il faut avoir un réseau et être déjà investi dans cette alternative là. Et nous, au sein de Plein d'essence, ce qu'on commence à mettre en place, c'est qu'on vulgarise aussi un peu l'alternative. Et en faisant petit à petit un peu du bruit autour de nous, ben, l'alternative de trouver du bois, elle augmente, mais aussi l'alternative de mieux gérer sa forêt, l'alternative de prendre part à un groupement forestier, elle apparaît. Et on parlait tout à l'heure de la pluriactivité. C'est un gros mot comme ça qu'on utilise beaucoup. Moi, je le rapproche un petit peu de la paysannerie moderne, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus, en fait, comme l'ont pu être mes parents dans les années 70-80, des individus qui sont destinés à avoir une carrière seule et unique et à finir cette carrière par l'apogée étant la retraite. En fait, on est amené à, pour s'épanouir, trouver des moyens de subsistance et de trouver du sens dans nos vies à travers différents travaux ou différentes occupations. Et la pluriactivité que nous, on essaye de mettre en place au sein de Plein d'essence, c'est de dire, en fait, les bûcherons à pied, il n'y a pas du travail pour eux toute l'année, mais comment on s'assure d'avoir des bûcherons à pied quand on a besoin d'avoir des bûcherons à pied, et comment, en fait, nous, on peut leur assurer qu'ils puissent rester dans le territoire et pas être obligés d'aller en fait faire la saison de bûcheronnage dans le Clunisois, puis après aller récolter le raisin à tel autre endroit, puis après devoir aller dans le sud pour faire encore une activité saisonnière différente. L'idée, nous, c'est d'ancrer des pluriactifs dans leur territoire et de leur trouver des activités de subsistance qui soient réalistes, quoi.
Donc ça veut dire que vous sortez du bois de, je ne sais pas si c'est que cette forêt qui est la forêt hospitalière ou vous travaillez sur d'autres forêts. Et après, c'est quoi? C'est d'avoir un site mobile ou comment on arrive à proposer des produits à des personnes dans la région?
Ben, déjà, l'association Plein d'essence, elle rassemble des gens de toute la filière à l'origine. Donc, il y a des personnes compétentes en gestion forestière, des bûcherons, bûcheronnes, des bardeurs, des bardeuses, un scieur mobile, des propriétaires forestiers aussi, et puis des charpentiers, charpentières, artisans du bois, architectes. Donc toutes ces personnes plus ou moins impliquées dans le quotidien de l'association, mais toutes ces personnes déjà en réseau par l'association même. Donc pour l'instant, les chantiers tests qui ont été faits de récolte de bois, de prélèvement de bois en forêt jusqu'à la vente du bois scié, ça c'est toute la chaîne a été gérée par Plein d'essence. Et je crois que c'est l'objectif de l'association d'avoir en interne toute la filière, quoi.
C'est l'un des objectifs, parce qu'on a quand même un grand volet dont on oublie quand même souvent de parler, parce que c'est en fait ça nous semble maintenant tellement ça va de soi, parce qu'ici ça fait 3 jours qu'on est au RAF, donc on n'en parle plus. Mais bien sûr, on a au cœur de notre pensée, c'est d'agrader, si c'est possible, les milieux forestiers, en tout cas de prélever vraiment le moins possible. Et jusqu'à présent, ce qu'on a réussi à faire, et que je trouve on peut s'en féliciter, c'est de ne pas couper un arbre si on ne savait pas où allait aller la planche ou les produits qu'on allait en extraire, quoi.
Ça veut dire aussi une sorte de rapprochement, de faire rapprocher les, on pourrait appeler les consommateurs, ceux qui vont utiliser le bois. Et en fait, ils et elles, ils savent un tout petit peu d'où vient le bois.
Et ils font aussi partie au sens large, on les invite à faire partie de la filière, en fait. L'association Plein d'essence, c'est avant tout des citoyens et des citoyennes, des habitants et des habitantes, on dit souvent ça. Mais ça veut dire que c'est aussi potentiellement des gens qui vont être destinataires d'un bardage, d'une terrasse, d'un poteau.
Ils peuvent participer au chantier?
Alors nous, à Plein d'essence, pour l'instant, on a réservé les chantiers à nos membres pour des raisons d'assurance. Donc ça veut dire qu'ils peuvent tout à fait faire partie des chantiers. À ceci près qu'il y a des petites notions de sécurité et de formation. La participation en tant qu'observateur n'a pas été pour l'instant quelque chose qu'on a fait, mais par contre la participation pour se former, pour apprendre, ça c'est aussi au cœur de ce qu'on recherche à faire, la transmission, la formation. Et du coup on fonctionne par exemple en binôme de bûcherons à pied pour que les moins sachants puissent être formés par les plus sachants, ou que des binômes de compétences égales puissent se renforcer. Donc oui, tout à fait. Il faut que les gens s'approprient justement la forêt, et le chantier, c'est un bon endroit pour le faire.
Pour compléter sur la formation, dans les premières actions qui ont été menées, ça a été d'accueillir des formations du RAF qui ont permis de se former, donc soit directement avec Plein d'essence, soit dans les tentatives de création de réseau. Et donc il y a eu une formation sylviculture douce et une formation d'initiation au cheval qui ont été réalisées, qui était aussi ouverte sur le calendrier des formations du RAF, mais qui ont quand même été bien bien remplies par les gens locaux de la filière. Voilà. Et ça fait aussi écho à cette volonté du RAF, qui est aussi de faire de la formation qui trouve un sens aussi dans le territoire, et pas de la formation un peu loisir, genre je fais de la vannerie aujourd'hui, du bûcheronnage demain, des bardages en découverte après-demain, mais au final ça ne débouche pas forcément sur de l'action, même si c'est toujours intéressant de sensibiliser.
Alors, je ne sais pas s'il y a encore des choses à rajouter sur Plein d'essence, mais il faudrait peut-être qu'on rajoute aussi l'élément de la branche locale. Et ça aussi, vous avez maintenant établi, je crois.
Du coup, on s'est motivé là pour se structurer en branche locale suite à la dernière AG du RAF, parce qu'en fait, le RAF a été très inspirant et la charte du RAF est mentionnée aussi bien dans les statuts du groupement forestier, la forêt hospitalière, que dans Plein d'essence. Et du fait un peu aussi de la confusion qui régnait, parce qu'il y avait des gens qui sont membres un peu de toutes ces associations à différents niveaux. Et du coup, on a dit qu'il fallait absolument se penser comme une branche du RAF. Et donc, on a été officiellement reconnu comme branche du RAF. Et du coup, c'est Camille Perrault qui fait le lien donc avec le RAF, et qui du coup reçoit les infos, qui redispatche sur les différents collectifs, et donc on a effectivement une branche du RAF active dans le Clunisois.
C'est surtout Camille en fait qui a vraiment bossé dessus. Elle a fait un gros boulot à chaque fois de transmettre les événements qu'on avait réalisés pour qu'ils fassent partie de la newsletter du RAFU, les événements à venir pour qu'ils soient dans l'agenda du RAF. Et ça déjà c'est un gros travail de pas de vulgarisation, mais de diffusion de ce qu'on fait dans notre territoire.
En fait, il y a 3 associations dans la branche locale pour l'instant du Clunisois, donc l'atelier partagé des gueules de bois, le groupement forestier et Plein d'essence. Et des membres sont dans 2, voire 3 des associations. Donc il y a des liens, évidemment, et puis il y a des liens du fait qu'on habite dans la même région, dans les mêmes villages, mais il n'y a pas encore de rencontres branche locale, étiquetées branche locale pour l'instant.
Il y a quand même une activité qui est bien présente, qui n'est pas formalisée sous forme tel jour c'est la réunion de la branche locale. Du coup, de montrer que toutes les initiatives locales se concrétisent dans l'esprit du RAF. Et on a fait une réunion dans un atelier de charpente qui a été monté en bois local, en charpente trad. Et donc, tout de suite, ça prend une autre dimension. C'est-à-dire que les gens ont pu voir concrètement ce que ça voulait dire utiliser du bois local avec des méthodes douces. Tout ce bois, il avait été exploité dans la forêt d'une propriétaire qui est membre aussi du coup de Plein d'essence. L'exploitation avait été faite par d'arbres à Z. L'après-midi s'est fait par une visite en forêt de la parcelle de la forêt hospitalière. Et donc la branche locale s'exprime par la cohésion et l'articulation de toutes ces actions locales, et pas forcément dans un besoin de réunion, puisqu'on fait déjà tous ses membres pas mal de réunions pour pas mal de sujets dans toutes ces actions différentes.
Oui, j'ai le sentiment, moi j'ai entendu d'autres branches locales où ça manquait justement les structures ou des moments de rencontre, Et la branche locale était vraiment utile. Et il y a même 40, 50 personnes qui débarquent à la première réunion parce que ça manquait tellement d'avoir quelque part où on peut se trouver. Et là, en fait, chez vous, c'est un peu le contraire, c'est que ça existait déjà. Mais j'imagine que aussi, le RAF national est très sollicité, a beaucoup, beaucoup de demandes. On parle de 30 000 visites du site internet par mois, enfin, des sollicitations de tout type. Donc c'est aussi un peu la volonté de soulager le niveau national et que en fait, s'il y a quelque chose qui concerne votre région, ils vont vous envoyer, quoi.
C'est exactement ça. Et du coup, quand Camille a décidé d'assurer un peu ce rôle, on va dire, de secrétariat de la branche locale, qui existait de fait, mais qui n'avait pas de matérialisation par un numéro de téléphone, par une adresse mail, par un contact, c'est lors de l'AG de l'an dernier, où s'était déjà exprimée cette surcharge de travail du RAF au niveau national. Et donc, c'est vrai que chez nous, la branche locale, c'est cette petite courroie de transmission. Et du coup, comme Camille est très impliquée dans quasiment toutes les structures, je crois, par les gueules de bois, elle fait très vite le lien. Quand il y a une demande qui redescend, qui a été formulée au niveau du RAF national, très vite, elle va aiguiller beaucoup plus facilement sur le terrain chez qui ça concerne, quoi.
Moi, l'AG valide un peu l'idée que, en fait, continuer la dynamique localement, ça me donne plus d'énergie encore pour localement, du coup, dans cette branche locale, ces associations, continuer notre travail qui est en cours et qui est en construction. Donc, c'est pas tout parfait, on n'a pas la solution à toutes les questions, mais et la réponse à toutes les questions. Du coup, moi, je suis plus impliquée dans la présence sur des chantiers en forêt. Mais voilà, on est chacun impliqué dans des avancées avec une énergie pour faire avancer plein d'essence et continuer ça, et que c'est la bonne direction de localiser vraiment les alternatives et de se sentir soutenu à une plus grande échelle, ouais, géographique.
Mais merci à vous trois. Quittons donc le Clunisois et partons vers ce qu'on pourrait appeler des questions planétaires avec Jacques Blot, qui est biogéographe. Il a été invité à l'Assemblée Générale du Réseau pour les Alternatives Forestières parce qu'il travaille beaucoup sur les forêts et leur capacité de résister au changement climatique. Quels sont les facteurs qui renforcent la résilience donc des forêts face au réchauffement climatique, aux sécheresses, etc. Pour commencer, Jacques Blot nous explique ce que c'est un biogéographe.
Alors, la biogéographie, à l'origine, c'était une étude de la répartition des espèces et de leur mouvement en fonction des territoires, avec la notion de barrière biogéographique, justement. Hein, c'est-à-dire que une montagne ou un océan, une mer, c'est un obstacle à la dispersion des espèces. Voilà. Et la spéciation des espèces va dépendre de ces territoires et fonctionner en interne, finalement. Animal et végétal, hein, alors il y a la phytogéographie et la zoogéographie. Hein, les deux approches sont un peu séparées, peut-être un peu dommage. Et aujourd'hui, on revient un peu sur cette approche, mais en intégrant maintenant le phénomène de changement climatique, déjà, et aussi le fonctionnement des systèmes, des écosystèmes. Voilà, en gros, c'est à peu près ce que l'on peut dire succinctement.
Alors ici, dans le cadre de la rencontre de l'AG, en fait, du Réseau pour les Alternatives Forestières, tu as pas mal parlé hier sur la question de la résilience des forêts ou qu'est-ce qui peut apporter une résilience par rapport au réchauffement climatique. Et on parle énormément de l'impact du réchauffement dans les forêts françaises. Et il y en a qui apportent des propositions assez abruptes pour dire, il faut complètement recommencer avec des nouvelles espèces, il faudrait peut-être couper parce que de toute façon ça va péricliter. J'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait d'accord avec cette approche-là, mais peut-être tu peux expliquer un peu comment ça se fait que tu travailles un peu sur ces questions de forêt.
Alors, la première chose que l'on peut dire, c'est que Une forêt qui n'est pas fonctionnelle ne peut pas résister au changement climatique. Aujourd'hui, si on regarde le paysage de la forêt française, on a très peu de forêts fonctionnelles. On a des plantations, mais on n'a pas de forêt au vrai sens du terme.
Alors fonctionnel, il faut le définir.
Oui, alors fonctionnel, ça veut dire que on a une structure de végétation, on a un type de sol qui va faire que le système va fonctionner de façon autonome et efficace, avec une capacité de résilience. Pour cela, il faut avoir un sol forestier en état, il faut avoir une diversité végétale, une diversité de classe d'âge également, et cette diversité végétale va induire évidemment aussi une diversité faunistique. C'est ce qui va permettre au système de fonctionner efficacement, de réduire les effets de stress hydrique, de réduire les effets de parasitisme, etc. etc. Avec des espèces exotiques, très souvent on importe l'espèce, mais on n'importe pas tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'un arbre, il va avoir au niveau de la mycorhization, par exemple, 200, 300 espèces de fonges qui vont être mycorhizées et qui vont lui apporter une assistance tout à fait efficace. Il y a un échange réciproque, bien sûr, mais ça, c'est quelque chose de fondamental. Au niveau du microbiote, c'est la même chose. Et une espèce exotique, lorsqu'on va l'introduire dans nos milieux à nous, elle ne va pas forcément retrouver ce cortège fongique et ce cortège microbiote.
Mais j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que tu mets dans la catégorie exotique. Parce que je veux dire, il y a par exemple le Douglas, ça vient des États-Unis.
Oui.
Il y a des arbres qui sont là peut-être depuis quelques siècles, mais qui ne sont pas originaires de notre continent, forcément. Donc qu'est-ce qu'on peut décrire comme exotique?
Alors, par définition, toute espèce qui vient d'un territoire étranger est exotique. Hein? Ça, c'est la première chose que l'on peut dire. Alors, on a des espèces qui vont se naturaliser, c'est-à-dire qu'elles vont s'intégrer dans le fonctionnement du système forestier. On en a d'autres qui vont dépérir. Ça peut être fonctionnel pendant un certain temps, hein, quelques dizaines, quelques centaines d'années, et puis un jour, pouf, il y a un effondrement et l'espèce va, si ce n'est disparaître, au moins se réduire de façon conséquente. L'autre version, c'est aussi des espèces qui vont être invasives. C'est le cas du chêne rouge. C'est le cas du robinier faux acacia aussi, même s'il est intéressant en termes de qualité des bois, ça reste une espèce invasive malgré tout, parce qu'elle va coloniser un espace, elle va éliminer la végétation naturelle à son profit et à terme provoquer une dégradation des sols et finalement on va arriver à un épuisement total de la ressource. À long terme, bien sûr. Hein. On a l'exemple de l'eucalyptus. L'eucalyptus en Éthiopie, en trois générations d'eucalyptus, c'est-à-dire que l'eucalyptus a été planté dans les années 1860. Aujourd'hui, on a des fossés d'érosion dans la forêt de plus de 3 mètres de profondeur. Il ne reste rien. On a le système racinaire qui est suspendu sur des tours de sol qui pendent dans l'air. Ça n'est plus fonctionnel, c'est terminé, c'est détruit. On est sur le rocher. Voilà. Avec l'eucalyptus, on a les mêmes problématiques en Espagne, on a les mêmes problématiques au Portugal. Hein. Il y a toute une série d'exemples qui montrent que c'est pas la solution.
Mais il y avait aussi un aspect important dans la présentation hier, c'est la richesse, la diversité absolument époustouflante, génétique. Dans une forêt mixte, une forêt fonctionnelle, même au sein d'un seul arbre.
Oui, c'est évident. Toutes les études qui ont été faites là récemment, en particulier sur le chêne, le montrent bien. Hein, une analyse de 1000 glands d'un même arbre, on a quasiment 1000 génomes différents. C'est-à-dire ça donne ce spectre, cette capacité d'adaptation qui est possible au niveau de l'adaptation au changement climatique. Hein. On a cet aspect-là. Et puis on a aussi le potentiel épigénétique, c'est-à-dire que ce sont des informations dont dispose la semence qu'elle va utiliser pour s'adapter justement, mais qui ne sont pas fixées, génétiquement fixées. Voilà. Donc il y a tout ce potentiel qui intervient. Le microbiote intervient également, probablement. Là, on est au début des programmes de recherche sur ce sujet-là. Mais il y a de fortes présomptions pour que ce microbiote intervienne de façon décisive aussi.
Ça paraît bête, mais microbiote, pour moi, ce n'est pas un concept très clair, donc peut-être juste une définition.
Oui, alors le microbiote, c'est un ensemble de bactéries, de diverses espèces, qui fonctionnent au niveau des radicelles en particulier, soit en interne, soit en externe, et qui vont apporter à l'arbre des nutriments, mais aussi renforcer son système immunitaire. Et l'arbre, en fonction de son état, a la capacité, à travers ses exudats racinaires, de sélectionner ce microbiote en fonction de ses besoins. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en considération aussi.
Mais en général, on peut dire que c'est un domaine où, en fait, on connaît peut-être un tout petit pourcentage de la réalité. On parle beaucoup de ces fameuses champignons, enfin, qu'on ne voit même pas sous le sol, et le rôle qu'ils jouent, le lien entre les différents arbres. Tu as montré un arbre qu'on a coupé, mais qui a cicatrisé en quelque sorte, oui.
Oui, concernant le microbiote et même la mycorhization, on est au début de nos connaissances. Il y a encore tout un spectre de recherches à mettre en place pour vraiment arriver à comprendre tout ce fonctionnement autour de l'arbre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une quantité d'informations extraordinaires à mettre en évidence encore.
Les plantations en France, qui sont de plus en plus nombreuses, en fait, on remplace malheureusement avec le plan de relance, par exemple, oui. beaucoup de forêts mixtes, on les coupe et on remplace par les plantations. À quel point on pourrait dire ces plantations, même, c'est suicidaire quelque part, parce qu'ils ne vont pas avoir cette résilience par rapport au changement climatique.
Oui, alors déjà, le stockage, si on prend le stockage carbone, ces plantations nouvelles ne seront pas efficaces avant 50-60 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que de toute façon, ces plantations-là seront coupées à 60 ans. Donc, efficacité carbone, zéro. Ensuite, il y a la composition, la structure de l'espace planté, de l'espace de xyloculture, ça n'est plus de la forêt, il faut bien comprendre ça. Tout le fonctionnement hydrologique du système est complètement déséquilibré, il n'y a plus de réserve en eau dans les sols, puisqu'on a une acidification, on a un sol qui se déstructure, une matière organique qui ne se dégrade plus. Voilà, on a un système complètement artificialisé et qui va faire que ce système-là ne va pas fonctionner correctement de toute façon et n'aura que très peu d'incidence au niveau climatique. Pourquoi ? Parce que les densités de recouvrement sont beaucoup trop faibles pour générer une ambiance bioclimatique de type forestier.
Le seul fait qu'une plantation, c'est logiquement des arbres plantés tous en même temps, donc il n'y a pas les différents étages et les différents âges, et donc, c'est comme si on avait une société humaine avec que des gens d'une seule âge, enfin, c'est un peu inconcevable, mais ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que de toute façon, c'est un système qui n'est pas durable, qui va avoir une incidence forte sur la dégradation des sols aussi, qui va avoir une incidence majeure sur la régulation hydrologique, c'est-à-dire qu'une forêt, au niveau hydrologique, c'est un système de régulation des réseaux hydrologiques, des rivières et des fleuves. À partir du moment où on n'a plus ce système forestier fonctionnel, on n'aura plus cette régulation. Et c'est en partie ce qui explique les problèmes d'inondation que l'on connaît aussi bien dans le nord de la France que le long de la Charente, par exemple. Et tout ce système-là est complètement hors service, je dirais, tout simplement. Alors que si on avait un système de forestier qui soit réellement forestier, on aurait à ce moment-là cette régulation hydrologique, on aurait une régulation climatique efficace, beaucoup moins de ruissellement et donc beaucoup moins de problèmes d'inondation et d'autres éléments négatifs.
Tu as eu la chance d'aller récemment voir une forêt célèbre qui était récemment menacée, mais qui est heureusement maintenant un peu plus protégée, la Białowieża en Pologne. Et c'est ça qui m'a frappé. Bon, c'est une forêt parmi les rares en Europe, presque le seul qui est, peut-être tu peux le décrire, qui est très très peu ou quasiment pas du tout touché par les humains. Mais j'étais frappé par les questions de la gestion de l'eau, la question hydrique, qu'en fait, quasiment, ils n'ont pas besoin de pluie. Une grande partie vient d'un système presque autonome intérieur à la forêt.
Oui, alors, on a une précipitation sur Białowieża qui est de l'ordre de 550 mm. Donc c'est quelque chose qui est très faible. Tout cela pour une forêt qui, c'est une véritable cathédrale forestière, hein, en fait. On a des arbres qui peuvent aller jusqu'à 45-60 mètres de hauteur. Une densité, on a un recouvrement qui est de l'ordre de 90-95%. Et donc cette structuration de la végétation en 4 étages va faire qu'on aura un fonctionnement hydrologique interne et permanent. L'eau tourne en rond, en quelque sorte, dans un cycle permanent à l'intérieur du système forestier. 80% des besoins en eau de la forêt fonctionnent en interne. Finalement, la pluviométrie apporte le reste. Ça correspond à peu près à 20% des besoins.
Ce qui est pareil étonnant, c'est qu'en fait, il semble qu'il y a des relations entre différents types d'arbres. Par exemple, dans une forêt mixte, il y a les racines qui se touchent, toutes ces questions-là. Donc, c'est quelque chose qui apporte quelque chose d'importance pour la résilience, que ce n'est pas justement monospécifique.
Oui, alors, cette diversité sylvestre est importante parce que, justement, chaque espèce, au niveau nutritionnel, va prélever des éléments nutritifs dans le sol dont elle a besoin, mais il y aura certains éléments qu'elle ne pourra pas prélever. Ce déficit est compensé par un apport par d'autres espèces via le réseau, soit le contact racinaire, soit le réseau fongique, donc le phénomène de mycorhisation, qui va permettre à l'arbre de trouver l'ensemble de ses besoins nutritifs. En cas de stress hydrique, ce réseau fongique a aussi la capacité d'augmenter l'approvisionnement en eau de l'arbre, de l'individu. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important en termes d'adaptation au changement climatique.
Il y a beaucoup d'alertes que, par exemple, les hêtres vont être seulement à la limite dans le tout nord de la France quelque part, mais presque plus rien. Il y a des études qui montrent ce genre de choses. Mais selon toi, si on a vraiment une approche à la gestion forestière adaptée, en fait, ces cris d'alerte sont en fait erronés. En fait, il y a une capacité de résilience considérable des forêts en France. Même face à un réchauffement climatique, on a l'impression que ça accélère quand même.
Oui, alors, le premier problème que l'on va rencontrer, c'est combien de vraies forêts nous avons en France. Il faut bien faire la différence. Forêt, fonctionnelle, efficace au niveau climatique, et plantation, espace de xyloculture, où là, on n'a pas cette efficacité climatique, on n'a pas cette efficacité hydrologique, etc. Donc, si on regarde bien ce paysage français, déjà, en termes de fonctionnement, on va devoir constater, malheureusement, qu'on a à peu près 16% de l'espace forestier français qui est réellement forestier. Tout le reste, c'est de la plantation, ça n'est plus de la forêt. Au niveau climatique, c'est évident que les conséquences sont très lourdes, puisqu'on n'a pas ce fonctionnement bioclimatique. Arriver ensuite à penser que l'on va résoudre le problème en persistant dans ces plantations, c'est complètement illusoire, ne serait-ce qu'en termes d'efficacité de stockage carbone. Puisque là, si on plante aujourd'hui, le stockage carbone sera efficace dans 60 ans, pas avant. Donc il faut agir beaucoup plus vite. Et donc il faut se porter sur ces forêts qui ne sont pas résiduelles, mais qui sont quand même peu nombreuses, en agissant sur la diversité, en agissant sur le maintien de ces forêts les plus vieilles, de façon à ce que ce captage carbone soit réellement efficace, quoi.
Alors, je ne sais pas du tout si ça t'arrive de discuter avec des représentants des grandes corporatives, des acteurs de la filière forêt-bois industrielle, on pourrait dire. Il y a plein de signes d'alerte. Oui. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de questionnement, peut-être, au moins, et peut-être une remise en question ou pas?
Non, on continue comme avant. Moi, j'ai connu dans les Landes la fée tempête de 1999, par exemple. Les propriétaires forestiers étaient tout à fait conscients de la nécessité de modifier les systèmes de gestion. Voilà, il y a eu cette envie de changer pendant 6 mois, 1 an. Et puis, au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'on continue comme avant, en pire. Donc, il y a probablement conscience de la réalité. Mais il y a de toute façon cette avidité économique qui fait que on ne prend pas en compte les mesures à mettre en place, qui pourtant permettraient d'avoir une production supérieure, une productivité supérieure et une qualité des bois supérieure. C'est-à-dire que le système de l'exploitation forestière aurait tout intérêt économiquement à modifier ces systèmes de gestion.
C'est un peu le modèle pro-sylvain, finalement, parce que ça, c'était des propriétaires forestiers qui sont arrivés, ils ont dit, en fait, économiquement et écologiquement, enfin, pour oui. L'écosystème, c'est intéressant, mais c'est aussi économiquement intéressant de prélever petit à petit. On n'a pas obligé de faire des plantations, ça coûte cher aussi.
Tout à fait, mais c'est évident. Une gestion de type pro-sylvain fait en sorte que les charges sont très inférieures. Alors, vous allez me dire que, finalement, ces charges, elles sont prises en compte par des subventions, dans bien des cas. Ces subventions vont nous contraindre à utiliser des espèces spécifiques et nous imposer finalement la monoculture. Dans le cas du système ProSilva, on a une capacité de résilience des peuplements qui sont incomparables, qui sont extrêmement efficaces. Et voilà. Mais ProSilva se confronte aujourd'hui et encore, peut-être un peu moins maintenant, mais à une opposition du système économique face à ces techniques de gestion. Et c'est bien dommage.
Poursuivons notre conversation avec Jacques Blot, biogéographe qui a été invité à l'Assemblée Générale du Réseau pour les Alternatives Forestières qui, je rappelle, a été organisée du 11 au 13 juillet à Cornille, en Corrèze. Peut-être on peut juste conclure un tout petit peu en revenant vers le Réseau pour les Alternatives Forestières parce que tu es venu pour... apporter cette conférence hier. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des ressemblances avec le monde agricole, dans le sens qu'il y avait une période où il y a des nouvelles forces. On a parfois appelé ça des néo-ruraux, mais enfin, des gens qui ne sont pas forcément de la profession, qui arrivent et qui apportent, par exemple, des idées sur le circuit court, sur les amas, enfin, plein de choses comme ça. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas des gens du monde paysan qui est agricole qui a quand même eu des idées aussi, mais cette rencontre, c'était important. Et là, c'est ce qu'on sent beaucoup au RAF, c'est qu'il y a des professionnels, bien sûr, plus traditionnels ou qui sont depuis longtemps dans la profession, mais il y a aussi beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui arrivent, qui sont fascinés par les bois, etc., et qui peut peut-être porter cette même réflexion, cette même volonté d'aller vers un peu ce que tu préconises.
Oui, ça c'est quelque chose d'évident. Par contre, lorsqu'on dépasse la pensée, l'idée d'agir, il faut faire attention à une chose, c'est la formation. Si on prend le modèle agricole dont vous parlez, il est évident qu'il y a beaucoup de déceptions aussi. En particulier dans le cas du maraîchage. On arrive, on se dit, ah oui, on va faire du maraîchage en permaculture, etc. Et puis, au bout de 2 ans, on est épuisé et on se dit, non, j'abandonne. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Pour le système forestier, on est un peu dans la même tendance. Une des problématiques, c'est de réduire l'effet mécanisation sur l'impact forestier. Ça veut dire aussi une force physique. Et qui est relativement importante, nécessaire. Et là, il peut y avoir aussi quelques désillusions à moyen terme. Mais si le système est nouveau et bien encadré, on peut arriver à des résultats extrêmement intéressants, bien sûr.
On n'a pas évoqué ça, mais c'est quelque chose d'important. Encore une fois, hier, c'était l'impact de mécanisation des machines de plus en plus lourdes. Et en fait, l'impact à long terme pour la question hydrique, enfin de plein de raisons qui ont fait que ce sol-là va être vraiment impacté pendant longtemps.
Oui, alors l'impact, il est énorme, effectivement. Il est important au niveau hydrique, il est important au niveau hydrologique, il est important aussi au niveau des microbiotes, au niveau fongique, voilà. Et même, ça implique aussi une ouverture du milieu et donc un déséquilibre, en tout cas, du système bioclimatique forestier. Donc, cette mécanisation, je pense qu'il faut, l'éliminer, mais la repenser, en tout cas, sous d'autres angles, avec des systèmes peut-être moins importants. Voilà, il y a toute une réflexion. Je crois d'ailleurs que le CNPF a pris conscience de ça et commence.
Le Centre national de la propriété forestière.
A pris conscience de cela et il y a quelques études qui sont actuellement en cours sur l'impact des engins sur le sol forestier. Voilà, il y a une prise de conscience. À présent, il faut voir comment on peut modifier les choses. Il faut bien se dire qu'avant la tempête de 99, la mécanisation était quasi inexistante. Hein. Donc, et on pouvait fonctionner aussi sans cette mécanisation peut-être excessive aujourd'hui.
Peut-être dernière question, je veux dire, j'ai l'impression que c'est aussi la question que la société beaucoup plus large comprenne mieux ces enjeux forestiers en fait. Parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, la question de forêt, que ça devient quelque chose, une demande. Je pense à Pologne, parce qu'en Pologne, voilà, c'est un voyage récent dans cette incroyable forêt, mais il y a peu d'années, le gouvernement a décidé de commencer à couper cette forêt. C'était un scandale national. Toute la société, presque, enfin une bonne partie, s'est élevée contre cette manière d'agir. Et maintenant, il y a même des changements dans la politique forestière, parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui est nettement moins conservatrice et, je dirais, vraiment très peu intelligente dans ce domaine-là. Donc, l'impact ou la pression sociétale, on pourrait dire, la société civile, serait très importante dans ce domaine.
Oui, il y a une évidence, c'est que quel que soit le territoire sur la planète où l'on soit, il y a un rapport inconscient extrêmement puissant envers la forêt. Ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver partout, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud et ailleurs, et en Europe, donc, bien sûr. Et en plus, lorsqu'on est dans un système urbain, on est coupé de ce monde, de cette connexion avec la nature. Et c'est une ressource qui est vitale, finalement, dans notre inconscient, dans nos cultures aussi, bien sûr. Ce qui fait que c'est un peu une forme de protection de la forêt, finalement. C'est que lorsqu'on va un peu trop loin, il y a une réaction sociétale qui se met en place. Ça a été le cas pour Białowieża, en Pologne. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace sur un plan politique, parce qu'il y a nécessairement une réaction une marche arrière, en quelque sorte, lorsqu'on est dans la situation excessive.
Ça commence un peu en France.
Alors, ça commence en France, oui, effectivement. Mais il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à quelque chose d'efficace.
Merci, Jacques Blou.
De rien.
C'était Du climat et du clunisois, la 34e émission dans la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zanzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières. Si vous voulez réécouter ou télécharger cette émission, vous pouvez la retrouver d'une part sur le site de Radio Zanzine qui est www.radiozanzine.org. Et vous pouvez également trouver cette émission et toutes les autres émissions dans la série Entre cimes et racines sur le site du Réseau pour les alternatives forestières qui est donc www.alternativesforestières.org.